C'est pas encore. Ah oui, ça y est, c'est branché. Merci. Alors, bonjour à tous. Ce matin, on va regarder ensemble une partie importante qui va être un peu longue sur la divinité de Christ. On va regarder ensemble la divinité de Christ, mais je vous invite à prier d'abord. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu es. Merci Seigneur parce que tu interviens puissamment dans des vies, Seigneur, et on l'a encore vu ce matin, Seigneur. Oui Seigneur, je veux te dire que nous t'aimons, Seigneur, parce que toi tu nous as aimés le premier, Seigneur. Je veux te dire que nous voulons t'adorer, Seigneur. Je veux te dire, Seigneur, que nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Nous sommes dans la joie d'être en ta présence, Seigneur. Et Seigneur, je sais, Seigneur, que c'est toi qui nous habilles jour après jour par ton amour, Seigneur. Tu nous as revêtus d'autorité, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je te demande, Seigneur, par l'autorité que tu nous as revêtus, Seigneur, que tout ce qui est négatif soit annulé, Seigneur. Que tout esprit de distraction, Seigneur, que tout ce qui ne te connaît pas, ou tout ce qui fait obstacle, Seigneur, soit anéanti, Seigneur. Seigneur, le sol est maudit, Seigneur, nous annulons maintenant, Seigneur, l'effet de ce sol, Seigneur, pendant que nous écoutons ta parole, Seigneur. Remplis-nous de toi, Jésus. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons traverser la Bible de Genèse à Apocalypse pour parler de la divinité de Christ. Vous savez que la divinité de Christ est un point très, très, très important pour les croyants, pour les chrétiens. On m'a fait la remarque sur le terme « croyant ». Parce que tous ceux qui croient sont croyants. Mais en qui on croit? Donc précisons bien, les croyants chrétiens. Et même dans le monde, la divinité de Christ est sujet à discussion. Alors, ce matin, on va regarder des textes ensemble qui vont nous montrer combien Dieu est grand, combien Dieu est unique. Le premier texte, c'est dès le commencement. En fait, dès qu'on ouvre la Bible, dans Genèse, les trois premiers versets nous parlent de la divinité de Christ. Genèse 1:1-3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu se présente en trois. Il y a Dieu le Père, il y a l'Esprit de Dieu qui plane sur le monde, et ensuite il y a une parole qui sort de Dieu. Dieu dit alors que la lumière soit. Et la parole de Dieu n'est autre que Christ. L'être humain est fait à l'image de Dieu. Ça, vous pourrez le lire dans 1 Thessaloniciens 5:23. Où le corps, l'âme et l'esprit ne sont que le parallèle de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais tout de suite dans Genèse, il se produit quelque chose d'extrêmement important, c'est la désobéissance. Et juste pendant la désobéissance, le Seigneur dit quelque chose d'extrêmement important. Genèse 3, versets 14 et 15, Dieu va annoncer l'arrivée de Jésus. Puisque tu as fait cela, te voilà maudit. Voilà, il parle au serpent. Parmi tous les bétails et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de la vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Christ est déjà annoncé dans Genèse. Et un petit clin d'œil, vous voyez que le malin est celui qui traîne sur le ventre et qui mange la poussière, les choses d'en bas, intéresse le malin. Et Dieu nous emmène à nous intéresser aux choses d'en haut. C'est une véritable identité en Jésus-Christ. Dieu soit loué. Quelqu'un va apparaître dans l'Ancien Testament et va se présenter à beaucoup de prophètes. Celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'est autre que Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel n'est autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va apparaître à Sarah et Abraham. Il va apparaître à Jacob. Il va apparaître à Moïse, à Josué, à David, à Gédéon, à Daniel, aux compagnons de Daniel. Il va apparaître à toutes ces personnes en tant qu'ange de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cet épisode où Moïse, où Sarah, pardon, est avec Abraham. Et c'est très surprenant de voir ce qui se produit dans Genèse 18, versets 1 à 18. Il y aura beaucoup de lectures ce matin, excusez-moi, je n'ai pas précisé. Je vous invite à prendre une Bible, hein, sinon vous allez être largués, ça risque d'être un peu compliqué. Vraiment, il faut avoir sa Bible pour pouvoir suivre. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. » Puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. Ils répondirent, très bien, fais comme tu as dit. Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, pétris vite trois mesures de fleurs, de farine et fais-en des galettes. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'emmena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux trois hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?»« Elle est là, dans la tente, » leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, » Puis l'Éternel lui dit, vous voyez parmi les trois, la Bible dit, puis l'Éternel lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de venir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, maintenant vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Saisie de crainte, Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle. « Si, tu as bel et bien ri, » répliqua l'Éternel. Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel se dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. » Une rencontre extraordinaire et vous savez que quelque temps plus tard, celle qui a ri a eu un enfant qu'elle a appelé Isaac. Dans Genèse 32, les versets 24 à 28, on voit Jacob qui demande d'être béni. Il demande à l'ange de l'Éternel d'être béni. Or, Jacob a un combat avec l'ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel n'est autre que Jésus lui-même. N'est autre que Jésus lui-même. Et Jésus va apporter la bénédiction tant attendu à Jacob. C'est vraiment un moment de foi qu'a eu Jacob à ce moment-là. un autre va expérimenter Ils ont présenté un documentaire dans lequel ils parlaient de ce que les Américains avaient subi au Vietnam. Lorsque les Américains ont fait la guerre du Vietnam, c'était une guerre pour laquelle ils sont allés combattre, un peu comme le peuple d'Israël, en pensant déjà à ce qu'ils vont faire après la victoire. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà gagné en engageant les troupes. Et la cuisante défaite qu'ils ont eue au Vietnam les avait amenés à revoir la façon dont ils attaquaient autour d'eux. Et du coup, un jeune officier des États-Unis, peut-être que vous connaissez, qui a été plus tard ministre, mais qui était en ce temps-là étudiant, a écrit une thèse qu'on appelle la doctrine Powell. La doctrine Powell, Colin Powell, qui fut chef d'état-major, qui fut ministre, Colin Powell a développé une thèse dans laquelle il exprimait le fait de dire que les États-Unis peuvent attaquer un pays uniquement lorsqu'ils considèrent que leur force est 1000 fois supérieure à celle de l'ennemi. Ça, c'est la thèse de Colin Powell. Et c'est une thèse qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que même pour la guerre en Irak, la capacité militaire doit être multipliée par 1000 avant d'intervenir. Donc vous voyez vous-même le résultat que ça donne. Je veux dire, si vous êtes 1000 fois plus fort que celui que vous attaquez, ça ne va pas être très compliqué de l'écraser. Mais cette thèse du combat est une thèse dans laquelle nous ne pouvons voir à travers la Bible que lorsque Dieu engage un combat, en fait, l'ennemi doit avoir peur. Parce que avec le Seigneur, c'est pas on est 1000 fois plus fort. Avec le Seigneur, c'est on est 1 milliard de fois plus fort. Parce que Dieu est celui qui est le plus fort. Il est celui qui écrase l'ennemi. Et comme il est dit dans Genèse, il écrase la tête du serpent. Le roi David, roi prophète, voilà aussi une grâce de Dieu. Il était roi, mais il était aussi prophète. Dans Psaume 110:1 dit « Mon Seigneur s'est assis à la droite de mon Seigneur ». Alors les gens qui lisaient ça se demandaient « Mais de qui Moïse parle-t-il ? » Révélation de l'Éternel. Il parle bien de Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Des jeunes gens vont vivre une expérience extraordinaire. Ce sont les compagnons de Daniel. Les compagnons de Daniel, vous pourrez lire dans Daniel 3, versets 24 à 27, ben les trois compagnons de Daniel vont être jetés dans la fournaise ardente parce qu'en fait, ils refusent d'adorer le roi de Babylone. Une véritable épreuve de foi. Ils refusent d'adorer le roi de Babylone. Et ils vont se retrouver dans le feu. Mais le roi de Babylone va se rendre compte de quelque chose d'extrêmement étrange. Il a mis trois personnes dans le feu, ils sont quatre à discuter. C'est impossible physiquement. Et c'est même impossible de voir des gens entrer dans une fournaise ardente et rester debout en train de discuter. Non, il y a une quatrième personne qui est avec eux. C'est l'ange de l'Éternel, celui qui est fort et glorieux. Ça, c'est les premiers passages de l'Ancien Testament. On peut aussi dire dans Juges 6, 22 à 23, comment Gédéon rencontre l'ange de l'Éternel. On peut aussi dire dans Exode 3, verset 6, comment Moïse rencontre l'ange de l'Éternel. Un clin d'œil, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Lorsqu'il naît, quelque temps plus tard à Bethléem, c'est le même ange de l'Éternel qui devient tout petit. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Jésus existait déjà. Le corps physique de Jésus existait déjà. Ce n'est pas avec l'existence de Marie et de Joseph que le corps physique de Jésus existe. C'est bien avant que Dieu avait déjà pris la forme humaine, faisant l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu va se façonner un corps et il va venir sur terre. Vous voyez comment Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu bon. Il va venir voir les hommes qu'il a créés. Il va visiter les hommes qu'il a créés. Et dès la naissance du Christ, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Christ est né dans une étable. On peut dire, c'est pas glorieux. Mais la curiosité, c'est de voir que des rois vont apporter des présents à l'enfant né dans une étable. Et là, il va y avoir l'or, l'encens et la myrrhe. L'or qui est le significatif de la divinité de Christ. Et là déjà, on est déjà dans une position dans laquelle on voit le positionnement de Jésus comme Dieu, puisqu'on vient l'adorer à sa naissance. On vient l'adorer à sa naissance. Jésus est Dieu, il est amour. Nous avons un rappel dans Jean 10, verset 18. Jésus donne sa vie de lui-même. Personne n'arrache la vie de Jésus. C'est lui qui donne sa vie. Et pourquoi donne-t-il sa vie? Destruction de Sodome et Gomorre. Je pense que plusieurs d'entre nous commenceront à prier à genoux. Dieu est un Dieu saint. Attention, on ne joue pas avec le Seigneur. Dieu, notre Dieu, mérite toute notre adoration. Matthieu 28, versets 8 à 9. Jésus mérite l'adoration. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous ». Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » L'adoration de Jésus. Les femmes se jettent aux pieds de Jésus et embrassent ses pieds. Vous voyez quelle image c'est d'embrasser les pieds de Jésus. Une femme s'est retrouvée devant Jésus et elle pleurait. Elle a pleuré. Ensuite, elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus parce que ses larmes coulaient sur les pieds de Jésus. Et, bien aimé, il faut s'arrêter un moment sur l'adoration que nous donnons à Jésus. Moi, ces choses ne me parlaient pas initialement. Je ne comprenais pas ces choses. voyez, à un certain moment, même si la foi est là, entendre Jésus par les oreilles humaines, ça revient à un certain moment. Comment adores-tu Jésus? Quelle est l'adoration que tu fais à ton Dieu? J'ai passé des années sans me mettre à genoux pour prier. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais comment adores-tu Dieu? Penses-tu, tu es assis sur ta chaise, que tu es en train d'adorer Dieu? Les gens vont à lui, embrassent ses pieds. Est-ce que tu as déjà embrassé les pieds de Jésus dans ton adoration? Jésus a fait de toi un fils. Jésus a fait de toi un ami de Dieu. Mais n'oublie pas que tu n'es pas l'égal de Dieu. Celui qui mérite l'adoration, c'est Jésus, parce que c'est lui qui est allé à la croix pour que toi et moi, nous ayons accès à Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il est allé à la croix pour vous, pour que vous ayez accès à Dieu, vous savez ce que dit la Bible, hein? La réponse, elle est très claire. Et celui qui mérite notre adoration, c'est Jésus-Christ. Mais comment adores-tu Jésus? Es-tu assis dans ton lit ou allongé quand tu pries? Quelle position prends-tu pour adorer ton Dieu? Ici, nous avons le témoignage de gens qui embrassent les pieds de Jésus. Chers amis, la Bible, elle est à sa bouche, hein? Ah ça, il y a des versets, il y a des passages, quand on les lit, on se dit, moi, comment je fais quand j'adore? Ah, ça nous remet en question. Étienne, dans Actes des Apôtres, Étienne va être celui qui va être capturé et Étienne va être celui qui va être lapidé. Mais dans quelle position de lapidation se trouve Étienne quand on est en train de lui lancer des pierres? Étienne est à genoux. Étienne est à genoux en train de prier Jésus. Vous vous rendez compte? Face à la mort, il est dans une position d'adoration. Face à ma télé dans la maison, suis-je dans une position d'adoration? Chers amis, il va falloir que ça bouge. Ah, il faut que ton culte change. Il faut que ton adoration soit digne du roi des rois. Parce que devant Jésus, nous ne sommes pas dans une position intellectuelle. Devant Jésus, nous sommes dans une position d'adoration. Ton adoration n'est pas liée aux personnes qu'il y a autour de toi. Souvenez-vous des pharisiens. Les pharisiens s'arrêtaient au milieu de la foule et criaient à Dieu des prières. Tout le monde était aimé. Est-ce que tu peux aller te mettre à genoux à Châtelet et crier Jésus? Ah, ce matin, il y a des challenges qui t'attendent. Moi, ces choses, je ne les sentais pas, je ne les savais pas, je ne les lisais pas. Vous voyez comment on peut lire la Bible et passer sur des choses essentielles? Je ne savais pas qu'en entrant dans l'entreprise, il fallait que je prie d'une certaine façon. Ben effectivement, quand je vais travailler, je vais prier à l'entrée. Oui, Seigneur, accompagne-moi, donne-moi ce lieu en possession. Toutes ces prières, nous les faisons. Mais est-ce que je m'agenouille devant Dieu? Oh Seigneur, merci de m'avoir montré que quand j'arrive, je vais directement dans les toilettes pour me mettre à genoux et pour remettre ce lieu entre les mains de Jésus. Entre les mains de Jésus. Parce que quand tu es debout bien installé sur ton fauteuil, là, ce n'est pas la même adoration quand ton corps est à genoux. Ah, parce qu'il faut que ce corps se plie. Vous savez que ce corps qui est une boussole, qui nous envoie vers le péché. À chaque fois que ce corps est bien installé, il veut aller vers le péché. Mais il faut désinstaller ce corps. C'est-à-dire qu'il faut prendre une position où vous allez véritablement avoir autorité sur votre corps de façon à ce que votre esprit se mettent en contact avec Dieu. Dieu veut que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Jean 4, 23-24. Quelle est ton adoration? Quelle est ton adoration à Jésus? Ce n'est pas parce que Jésus a fait de toi un ami que que tu penses que tu es l'égal de Jésus. Dieu veut voir une véritable adoration dans ta vie. Dieu veut voir une véritable adoration dans ta maison. Dieu veut que tu lui consacres du temps. Dieu veut que tu lui consacres du temps. Eh oui, mes chers amis. Dieu veut que le dimanche, lorsque tu rencontres tes frères et sœurs, ça soit un sujet d'encouragement pour toi. Dieu veut que tu l'honores en esprit et en vérité. Jésus est l'égal de Dieu. Vous pourrez lire dans Philippiens 2:6. L'apôtre Paul le rappelle, et c'est très surprenant de voir les lettres de l'apôtre Paul ou les lettres de Pierre ou même ce que écrit Jacques, le frère de Jésus, ou Jude ou Jean. Ils commencent par citer la Trinité et quand ils finissent, ils recitent la Trinité. Et il y a toujours au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la résurrection, ça aussi, c'est un moment très important. Jésus est ressuscité, il veut que toi aussi tu sois ressuscité comme lui. Il veut te donner le même corps glorieux et il va te donner le même corps glorieux que lui a eu lors de la résurrection. Pourquoi ? Parce que désormais, il n'y a plus de condamnation en celui qui croit en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Vous savez que tout le monde sera jugé, même les croyants. Même les croyants seront jugés. Mais les croyants ne seront pas condamnés. Parce que désormais, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta condamnation, c'est Jésus qui l'a payé à la croix. Je termine avec un verset d'espérance. J'aime beaucoup cette espérance. Vous savez, Abraham, les prophètes, l'espérance pour eux, c'était de rencontrer et de rester avec Dieu. Il en est de même pour nous. Nous avons rencontré Dieu, mais notre espérance, c'est de vivre éternellement avec lui. Et voyez-vous, Apocalypse 19, les versets 13 à 16. Apocalypse 19, je commencerai au verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues d'un lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre. Un titre. Ce matin, Jésus te dit, roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur.